Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Itinéraire d'un manuscrit oublié. Dans la littérature médiévale qui nous conduit vers des mondes lointains, la vedette est sans nul doute le dévissement du monde de Marco Polo. Oui, mais un ouvrage postérieur de quelques années mérite qu'on s'y attarde. Son titre est magnifique. La fleur des histoires de la Terre d'Orient. L'ouvrage est présenté en 1307 au pape Clément V et débute un voyage qui nous fait passer par Poitiers, Avignon, Rome, jusqu'en Arménie et bien au-delà. La fleur peut éclore.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici un livre intitulé « La fleur des histoires de la Terre d'Orient », composé à la demande du très saint pontife suprême, le pape Clément V, par le frère Etoum, seigneur de Corycos, parent du roi d'Arménie, à Poitiers, dans le royaume de France, en l'an 1307 de l'incarnation de notre Seigneur.
Les premières lignes de la fleur des histoires de la Terre d'Orient. Bonjour Thomas Thanase.
Bonjour.
Ici, c'est bien pratique, hein. Tout est dit. La date, l'auteur, le destinataire aussi. On sait tout de ce livre. En fait, ce n'est pas un livre mystérieux.
Non, le livre n'est pas mystérieux, mais c'est un livre qui ouvre beaucoup d'horizons, puisque c'est un livre qui a été écrit par un prince, moine, arménien, qui venait de Cilicie. Je vais revenir sur ce que ça signifie exactement, la Cilicie, qui était au contact du monde des Mamelouks, qui était au contact du monde des Mongols, et qui est venu jusqu'à la cour pontificale et jusqu'à Poitiers pour présenter son ouvrage, qui est une histoire de l'Asie, qui se conclut par un traité de croisade et qui nous emmène vers des horizons très larges, qui portent l'empreinte de la vie d'aventure de cet auteur, et de tout ce monde et de tout ce carrefour, finalement, qui s'est noué autour de l'Arménie de Cilicie, d'une Arménie méditerranéenne, de Poitiers jusqu'à la Chine.
Oui, parce que la Cilicie, il faut bien préciser, c'est de la géographie aujourd'hui que nous faisons en faisant de l'histoire, ce qui est le cas bien souvent. C'est où la Cilicie ?
Alors la Cilicie, on sera dans une région autour de la ville d'Adana, qui aujourd'hui fait partie de la Turquie contemporaine. On n'est pas très loin de la frontière syrienne. En fait, si on prend la côte turque qui va d'ouest en est, on est au moment où elle tourne pour aller vers le sud, pour aller vers la côte syrienne, libanaise. On est autour du golfe d'Alexandrette. On est dans cette région méditerranéenne, mais qui est dominée par des montagnes, par les monts Taurus. Et en fait, c'est une région qui est hellénisée depuis l'Antiquité. C'est une région où il y a des Arméniens aussi depuis l'Antiquité. C'est la région où il y avait eu le grand royaume, c'est une région qui faisait partie du grand royaume de Tigrane, qui avait fait une grande Arménie au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et puis, à partir du 11e siècle, quand les Byzantins commencent à prendre le contrôle des royaumes arméniens du Caucase, puisque c'est évidemment le Caucase qui est la terre originelle des Arméniens. Et puis, ils affaiblissent le pouvoir musulman à Bagdad. Et alors, par contre-coup, il y a les Turcs Seljoukides qui passent dans la région, qui arrivent à Bagdad, puis qui emportent une victoire très importante sur les Byzantins en 1071 à Manzikert. Dans toute cette histoire, beaucoup d'Arméniens, de rois, de princes vont immigrer, vont partir du Caucase et vont s'installer dans cette région de Cilicie, où ils retrouvent des montagnes, où ils peuvent se réinstaller avec leur système, faire des châteaux, des chevaliers qui s'installent ou des nobles qui s'installent autour de ces châteaux, qui dominent des cols, redévelopper toute une petite aristocratie locale qui va servir de support au développement d'un royaume qui s'inscrit dans cet Orient où arrivent aussi les croisés à partir de 1098-1099, la prise de Jérusalem. Donc ce royaume arménien de Cilicie est un royaume arménien, mais dans cette région de Carrefour, qui est proche des croisés, puis qui au XIIIe siècle devient très proche et s'inscrit finalement dans l'Orient des croisades. Et il peut même y avoir une communication entre ces nobles arméniens qui ont un mode de vie chevaleresque, finalement qui leur permet de se rencontrer avec les croisés, qui deviennent leurs alliés dans la région face aux menaces montantes, notamment celles des pouvoirs musulmans et des pouvoirs musulmans d'Égypte.
De la géopolitique avec cette Cilicie, donc c'est l'Arménie au bord de la Méditerranée.
C'est l'Arménie au bord de la Méditerranée.
Et dans cette géopolitique-là, c'est vrai qu'il y a ces grands acteurs à présenter. Au plus près de la Cilicie, de ces Arméniens, il y a les Byzantins. Donc c'est du point de vue de la religion, on peut déjà dresser un tableau. Les Byzantins, les Arméniens. Alors les Arméniens, c'est la même religion que les Byzantins ?
Oui, c'est du christianisme. Mais en fait, il n'y a aucune solidarité entre les deux. Les Byzantins, c'est un héritage des querelles autour du dogme chrétien des premiers siècles du christianisme, 4e, 5e siècle. Les Byzantins sont donc, ont reconnu le concile de Chalcédoine, sont, on dirait en termes contemporains, orthodoxes, grecs orthodoxes, là où les Arméniens sont une église en termes, on pourrait dire une église qui a refusé le concile de Chalcédoine et qui est devenue une église à part nationale autour d'une vision qu'on pourrait qualifier de monophysite. Et les Byzantins, comme un grand empire, ont toujours essayé d'assimiler les Arméniens, ce qui signifiait aussi les convertir à l'orthodoxie. Chose que les Arméniens ont toujours refusé. Au contraire, leur église était un élément puissant d'unité, de fabrication du peuple arménien, mais aussi de refus de la domination byzantine, même s'il y a toujours eu beaucoup d'Arméniens qui sont passés dans l'empire byzantin et qui se sont progressivement hellénisés. Donc il n'y a pas de solidarité entre les deux. Il y a même une rivalité, puisque le royaume d'Arménie-Cilicie est dans une région revendiquée par les Byzantins.
Puis il y a d'autres chrétiens dans cette histoire, ce sont les occidentaux que l'on retrouve, alors bien sûr en France, en Espagne, en Occident, mais en Terre Sainte, parce que c'est la période qui est encore marquée par les croisades.
Oui, encore que l'époque de Etoum est justement le moment où les états croisés sont en train de disparaître. En fait, quand les croisés arrivent, c'est aussi le moment où commencent à s'installer les Arméniens. Au début, il y a des rivalités entre les deux, mais finalement les deux vont finir par s'associer. Le roi Léon fonde le royaume d'Arménie qui est reconnu officiellement en 198 par les Occidentaux, c'est-à-dire par l'empereur et aussi par le pape, ce qui signifie qu'en théorie, si le royaume est reconnu par le pape et les latins attendent que ce royaume se convertisse, entre dans l'église latine et là-dessus il y aura toujours un problème, les Arméniens étant à proximité, promettant de se rapprocher, ayant des rois qui parlent d'union des églises, mais les Arméniens ne le faisant jamais tout à fait.
Voilà, il y a comme une déception. Mais pour les Occidentaux, et même tout simplement pour le pape, il y a un regard porté sans cesse sur ces chrétiens d'Arménie. Il y a un intérêt ici dans toutes ces rivalités à l'intérieur même de la religion chrétienne.
Il y a un intérêt. En fait, les latins, quand je dis les latins, ça signifie les occidentaux. Les occidentaux, les arméniens peuvent communiquer à plusieurs niveaux. D'abord par un code chevaleresque, par un mode de vie chevaleresque et féodal qui se ressemble. Ça n'est pas une évidence. Par exemple, c'est un facteur d'éloignement vis-à-vis des Byzantins. Les Byzantins ont la grande culture impériale. La grande culture impériale, ça signifie de jouer les peuples les uns contre les autres, de toujours privilégier la diplomatie et faire la guerre en dernier ressort, là où les croisés ou les arméniens ont une culture chevaleresque qui signifie faire la guerre et se battre comme un élément d'honneur. Et puis il y a cette proximité qui vient aussi de la rivalité face aux Byzantins, pour ne pas parler de la rivalité commune face au pouvoir musulman. Et il y a toujours l'espoir d'arriver à accrocher les Arméniens du côté de l'Église latine, même si finalement les promesses non tenues vont finir par créer beaucoup de mauvais sentiments et beaucoup de rancunes.
L'Arménie, c'est le Caucase et c'est la Cilicie aussi.
L'Arménie primitive, la Grande Arménie, c'est un royaume qui s'étendait au nord du Taurus et au pied du Caucase, dans le pays qui s'appelle encore aujourd'hui l'Arménie et qu'on a toujours nommé l'Arménie. Mais enfin, ce royaume d'Arménie, malgré une résistance héroïque, avait été envahi par les Turcs seldjoukides et alors les seigneurs arméniens s'étaient réfugiés au sud du Taurus où ils avaient fondé un nouvel état qu'on peut appeler comme on veut la Petite Arménie ou la Cilicie, qui avait sa capitale à Cis et qui avait été fondée par un certain Roupen Ier, d'où le nom de Roupénide que l'on donnait à la dynastie et qui dominait cet état. Et cet état était contemporain de l'établissement des royaumes et principautés francs à la suite de la première croisade, d'où une solidarité évidente entre les Arméniens et les Francs, puisqu'ils étaient chrétiens tous les deux et puisqu'ils avaient affaire au même ennemi, l'ennemi musulman.
Nous étions en 1970 sur France Culture quand s'exprimait Jacques Madeau, l'écrivain spécialiste de l'histoire des chrétiens et des juifs. Et oui, ennemi commun, parce que à vous écouter, et on voit bien le panorama, Thomas Tanaz, il y a des chrétiens globalement divisés, mais qui ont un point commun, c'est l'ennemi qui arrive, les musulmans.
Oui, surtout que Etoum, lui, qui naît vers 1250, vit dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Or, qu'est-ce que cela signifie? C'est que c'est le moment où les états croisés, les états latins d'Orient sont en train de disparaître. Il ne reste plus que quelques villes sur les côtes. Et le pouvoir musulman d'Égypte veut définitivement éliminer les états croisés. Au siècle précédent, en 187, Saladin avait réussi à reprendre Jérusalem. Les croisés avaient survécu sur la côte. Mais Saladin et ses successeurs, ce qu'on appelle les Ayyoubides, avaient eux-mêmes un peu ce code chevaleresque Ils étaient ennemis, mais il y avait une forme de communication possible avec les Francs. À partir de la croisade de Saint-Louis en 1250, le pouvoir des Ayyoubides, des descendants de Saladin en Égypte, est renversé pour laisser la place à un nouveau régime qui est très spécifique, ce qu'on appelle le régime des Mamelouks. En fait, qu'est-ce que c'était que les Mamelouks ? C'était des soldats esclaves, c'était des enfants qui avaient été vendus comme esclaves très jeunes, qui souvent venaient de la région, avec des peuples turcs, qui venaient de la Crimée d'aujourd'hui. Et donc ils étaient vendus comme esclaves, ils étaient formés pour être des soldats, d'élite. Et finalement, après ils pouvaient éventuellement être affranchis, mais ils restaient dans la clientèle de certaines familles. Et ils finissaient par devenir un corps d'élite qui dominait la société égyptienne. Et au bout d'un moment, ils renversent le souverain Ayyoubide et ils prennent sa place pour former un régime mamelouk uni par cette culture guerrière, uni par un renouveau musulman et uni par le fait de vouloir en terminer définitivement avec les croisés. Donc ils commencent à éliminer petit à petit tous les restes croisés qui restent dans la région, jusqu'en 1291 quand ils prennent la ville d'Acre qui était le grand port et qui était le dernier bastion croisé. Et à ce moment-là, les croisés sont éliminés, ne reste que le royaume d'Arménie-Cilicie, qui est aussi très lié à l'île de Chypre où il y a une présence croisée.
Et ici, nous avons le panorama qui se dresse avec ces différents acteurs. Nous avons ces Arméniens de Cilicie, nous avons les Latins, les Occidentaux, les Byzantins et les Mamelouks. Maintenant, c'est dans cet univers-là que naît Etoum. Vous nous avez dit, Thomas Athanase, qu'il est à la fois un peu moine, un peu prince. Alors, qui est-il ?
Alors, en fait, c'est un prince. Il est lié à la famille, il vient de la famille royale. Il vient de la famille royale arménienne, c'est un cousin du roi Léon II. Donc c'est un grand prince qui a toutes les fonctions d'un grand prince, il est lettré. On sait que par exemple on a gardé un manuscrit d'Avicenne qu'il a fait traduire en arménien, qui s'est gardé à Venise, là où il y a un grand centre, sur une île, un grand monastère arménien avec une grande bibliothèque arménienne. On sait qu'il a fait traduire un ouvrage historique du français en arménien, donc il a cette fonction de lettré, mais c'est avant tout un prince impliqué dans les affaires politiques de son temps. Et il est tellement impliqué dans les affaires politiques de son temps que lorsque un nouveau roi arrive au pouvoir en 1289, le roi Etoum II, alors les deux sont des homonymes, il y a le roi Etoum II qui est le roi franciscain Etoum, et puis il y a Etoum, son parent, qui lui est notre historien, et les deux vont s'affronter, et c'est à l'occasion de cet affrontement que finalement Etoum, l'historien, va aussi finir par arriver jusqu'en Europe pour composer son ouvrage.
Voilà, parce que c'est une histoire de transfert sans cesse, d'échange. Ces Arméniens de Cilicie peuvent se déplacer. À l'intérieur du monde chrétien, il y a énormément d'échanges. Vous avez cité Venise, on pourrait aller jusqu'à Rome. Et puis dans cette histoire-là, il nous faut traverser tout ce monde-là et nous rendre jusqu'à Poitiers. Parce que c'est très étonnant, hein, mais de retrouver cet Arménien de Cilicie à Poitiers, où il n'est pas seul, il y a du beau monde à Poitiers. À ce moment-là, on trouve là aussi le pape.
Le Moyen-Âge à Poitiers, c'est fait d'un mythe. C'est fait d'un mythe, d'abord, fondamental, 732. 732, Charles Martel, je dirais, c'est la rencontre du Nord et du Sud, dont se souviennent les étudiants, par exemple, oregonais, qui ont de la peine à situer Poitiers, non seulement en France, mais en Europe. Mais 732, ils s'en souviennent. Le texte qui raconte cette bataille, le texte de l'anonyme de Gordoue, qui a été écrit, semble-t-il, une vingtaine d'années après cette bataille, et dans lequel, pour la première fois, apparaît le mot européen. Et l'autre moyen de leur faire comprendre ce qu'est Poitiers et ce rôle de Poitiers, l'affrontement nord-sud, si vous voulez, mais il suffit de les emmener sur le point élevé de la ville. Et là, ils remarquent que la moitié des toits de la ville sont bleus, l'autre moitié rouge. Les bleus appartiennent généralement aux édifices publics ou ecclésiastiques, et c'est la France du Nord. L'autre moitié est rouge, c'est la France du Midi, c'est-à-dire les tuiles romaines, qui montrent bien qu'à Poitiers s'est établie la ligne de partage entre la France de langue d'oeil et la France de langue d'oc. Donc ils perçoivent très vite le poids encore du Moyen-Âge, et en cela, Poitiers a gardé un très gros héritage.
Jean-Pierre Arignon, historien, professeur à l'université de Poitiers, qui s'exprimait sur France Culture en 1991, Poitiers qui reçoit un pape, qui reçoit un Arménien qui a traversé l'ensemble de tous ces territoires. Pourquoi Poitiers ?
Mais si, il faut revenir un peu en arrière et faire un peu d'histoire de la papauté. Rappelez-vous qu'au début du XIVe siècle, vous avez le grand affrontement entre le pape Boniface VIII et le roi de France, Philippe le Bel. Finalement, ça se termine de manière un peu heureuse pour Philippe le Bel, qui tente de faire arrêter Boniface VIII à Anagni, et puis Le pape est relâché par la foule, mais il meurt juste après. Les compteurs sont remis à zéro et il faut désigner un nouveau pape. Et il y a des affrontements, évidemment, entre le camp pro-français et le camp anti-français. Et bref, celui qui est désigné comme nouveau pape, c'est l'archevêque de Bordeaux, Clément de Gaulle. Enfin, c'est l'archevêque de Bordeaux, pardon, Bertrand de Gaulle, qui devient le nouveau pape, Clément V. Qui est un pape très intéressant ou très politique. Archevêque de Bordeaux, ça signifie Bordeaux était au cœur de l'affrontement entre Français et Anglais. Il avait réussi à garder des très bonnes relations et avec le roi de France et avec le roi d'Angleterre. Ensuite, Bordeaux, quand il y a l'affrontement entre Boniface VIII et Philippe le Bel, Bordeaux évidemment est impliqué. Il a aussi de très bonnes relations et avec Philippe le Bel et avec Boniface VIII. Ce qui donne un peu la caractéristique du personnage et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Mais quand il est nommé, pape, normalement il faut partir pour Rome, mais il sait qu'à Rome il y a plein de problèmes et que l'Italie est très compliquée. Donc il se met en chemin très doucement, sans jamais arriver à Rome et en tournant essentiellement dans le sud de la France. Et en 1307, il va jusqu'à Poitiers, parce qu'à Poitiers, il peut rencontrer Philippe le Bel, il peut rencontrer des princes importants, puisqu'il a l'espoir, après tous ces conflits, d'essayer de réconcilier tout le monde autour d'une croisade et relancer une grande croisade. Et du coup, c'est aussi comme ça qu'arrive notre prince arménien, qui est devenu moine entre-temps, à la cour de Clément V, où il va écrire son ouvrage, qui se termine par un traité de croisade, qui s'inscrit dans tout ce contexte.
Et oui, bien sûr, d'un seul coup, tout devient très clair. Ce moine venu d'Arménie, Etoum, est un prince, mais il fait de la géopolitique lui aussi. Enfin, moine, quand il s'adresse à Clément V, vous venez de le dire, la fleur des histoires de la Terre d'Orient se compose de plusieurs parties. Alors, qu'est-ce que contient ce livre ? Il y a quatre grandes parties,
oui,
on pourrait dire.
En fait, on pourrait dire que pour l'essentiel, c'est une histoire de l'Asie. Mais c'est une histoire de l'Asie qui veut se terminer par un projet de croisade et appeler à une croisade, évidemment avec l'idée de sauver aussi les États arméniens ou le royaume d'Arménie-Cilicie qui est en très grande difficulté. Et en fait, pour comprendre aussi quelle est la spécificité de ce projet de croisade, il faut aussi dire deux mots de l'arrivée du pouvoir mongol dans la région. Puisque le XIIIe siècle est le siècle du grand empire de Genghis Khan et de ses héritiers, et qu'il a un petit-fils qui s'appelle Ulehu qui arrive et qui prend la ville de Bagdad en 1258, et Ulehu et ses successeurs fondent un pouvoir mongol qui est en Perse. Et du coup, pour les Arméniens de Cilicie, qui sont obligés de se soumettre à ce pouvoir pourrait être aussi la solution pour organiser une grande croisade commune pour sauver l'Arménie-Cilicie et pour défaire les Mamelouks, une croisade commune entre les Francs et les Mongols, avec les Arméniens au milieu. Donc le prince Etoum vient à Poitiers pour essayer de proposer ce projet, et du coup il compose ce récit, il dicte ce récit qui commence par une grande histoire de l'Asie, il commence par décrire les royaumes de l'Asie et les peuples de l'Asie jusqu'en Chine, puis ensuite il fait une histoire de l'Asie en racontant les différents pouvoirs qui se sont succédés, pouvoir perse, pouvoir turc et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée des Mongols. Et le cœur de son ouvrage, c'est un grand livre qui parle des Mongols et qui parle du monde dominé par les Mongols. Et ici, on se recoupe un peu avec Marco Polo, qui donne beaucoup d'informations sur ces Mongols qu'il a fréquentés, parce que lui-même avait été en Perse, il avait fréquenté les Khans mongols. Et après, l'ouvrage se termine, quatrième partie, par un traité de croisade, où il explique comment Francs, Arméniens et Mongols pourraient ensemble faire une croisade contre les Mamelouks d'Égypte.
Bon, on dresse de plus en plus, de manière nette, le tableau Tomatanas. On avait déjà un pape, un roi de France, un Arménien qui passait par là, des Mamelouks, des Byzantins, et vous ajoutez des Mongols.
Après les premiers enthousiasmes, quand on croyait encore aux rois chrétiens qui venaient, on était assez vite déçus, surtout par les nouvelles qui venaient de Russie. Après la grande défaite des Russes à la Khalkha en 1223, il y avait les premiers échos. Tout d'abord, on ne savait rien. On ne savait pas, il y avait des bruits innombrables de toutes sortes qui arrivaient en Europe, et c'était toute la mythologie qui commençait à vivre, et c'était surtout la panique. Il n'y a qu'un chroniqueur qui a rassemblé tous ces bruits, ces lettres qui partaient dans toute l'Europe, c'était Matthieu de Paris à Saint-Albe en Angleterre. Et lui a essayé de dessiner ces Mongols d'après les premières descriptions. Il a fait un tableau du cannibalisme mongol, des Mongols qui rôtissent les victime humaine. Il y a un chevalier mongol avec sa cuirasse qui tue un chevalier chrétien. Donc là, il y a les premiers tableaux, mais sans cela, on savait très peu.
Bah oui, on savait très peu de ces Mongols. C'est Andrea Bressola qui s'exprimait à propos des Mongols et l'Europe sur France Culture en 1972. Thomas Tanaz, c'est ça aussi, d'essayer de saisir ce qui se passe là-bas. C'est assez loin, mais ce n'est pas si loin parce qu'il y a des contacts. On a parlé des Arméniens, il y a les Byzantins. Les informations arrivent, elles sont déformées. On a du mal à les saisir, ces Mongols.
Oui et non, parce que Etoum est une ou deux générations après ceux dont on vient de parler. C'est-à-dire que lorsque les Mongols arrivent et qu'ils attaquent l'Europe en 1241, effectivement, il y a une surprise et ils sont assez mal connus. Mais il y avait eu des échanges. Le pape Innocent IV avait envoyé un franciscain qui s'appelait Jean de Plancarpin, qui était arrivé au cœur de la steppe, qui avait fait un véritable rapport d'information sur les Mongols et qui, au passage, avait rapporté une lettre du khan mongol qui invitait le pape à venir en Mongolie faire acte de soumission. Donc on avait à peu près commencé à comprendre ce que signifiait le pouvoir mongol. Saint-Louis va lui aussi envoyer des émissaires, André de Longjumeau, et puis après le fameux Guillaume de Rubruck, qui vont eux aussi venir avec des ordres de soumission. Ce qui change à partir de 1260, c'est que l'empire mongol se divise. Donc au lieu d'avoir un empire mongol uni, capable d'unir toutes les ressources de l'Eurasie pour attaquer l'Europe, on passe à une sorte de Commonwealth mongol avec des pouvoirs mongols qui sont apparentés, qui ont des relations, qui viennent tous de petits-fils de Genghis Khan, mais qui malgré tout sont aussi en conflit entre eux. Donc pour faire vite, il y en a un qui est important, qui est en Perse, celui qu'on appelle le pouvoir mongol des Khans de Perse ou des Ilkhans, avec Ulehu qui était un frère de Kubilai, le grand Khan en Chine. Et il y a un pouvoir rival qui est ce qu'on a pris l'habitude d'appeler la Horde d'Or, qui est sur la Volga et qui domine le monde russe. Et les Mongols de Perse, les Mongols de la Horde d'Or, sont en affrontement permanent, notamment autour du Caucase. Du coup, il ne peut plus avoir un pouvoir mongol qui se mobilise pour attaquer l'Europe. Mais en échange, comme les Mongols de Perse ont l'affrontement avec les Mongols de la Horde d'Or, comme sur leur Orient, ils ont le problème des Mongols qui sont en Asie centrale qui les menacent. Comme ils ont aussi le conflit avec les Mamelouks, ils commencent à regarder du côté des croisés et du côté des Occidentaux pour voir si ceux-ci ne pourraient pas venir les aider. Et c'est pour ça que lorsque Etoum compose son ouvrage en 1307, en fait, il y a déjà eu quasiment un demi-siècle de rapports diplomatiques entre les Mongols de Perse et les Occidentaux, où les Mongols de Perse envoyaient des lettres au pape ou au roi de France en leur promettant, en les invitant à faire une croisade et en leur promettant que, en cas de victoire, ils pourraient leur rendre Jérusalem, voire éventuellement se convertir au christianisme. Les papes ou les rois de France qui n'avaient pas oublié les lettres de soumission envoyées par les Khans mongols et qui comprenaient très bien l'idéologie mongole, comprenaient qu'en fait l'alliance proposée serait un acte de soumission. Et en général, les papes répondaient à l'offre des Khans mongols qui leur promettaient Jérusalem, voire la conversion, leur disant « convertissez-vous d'abord et on verra ensuite pour le reste ». Et Etoum vient dans ce monde-là pour essayer de convaincre quand même le pape que s'il veut faire une croisade, le mieux serait de débarquer des troupes en Arménie-Cilicie, manière de protéger l'Arménie-Cilicie, puis de faire une action commune avec les Mongols. Et toute la difficulté, c'est que les pouvoirs latins, que ce soit le pape ou que ce soit le roi de France, ne font guère confiance à ces Mongols.
Oui, parce que les Mongols ont, à travers les siècles, cette image de terribles barbares qui traversent les territoires et qui ravagent tout. L'ouvrage de Marie Favreau, La Horde, comment les Mongols ont changé le monde, récompensé au rendez-vous de l'histoire à Blois, a bien montré que pour maîtriser un si vaste territoire aussi longtemps, c'est qu'il y avait une vraie organisation et une vraie attention portée aux populations dominées. Ça veut dire que ce que vous nous décrivez là, Thomas Tanaz, s'inscrit dans cette histoire-là. Les Mongols sont des gens avec qui l'on peut discuter.
Oui, et d'ailleurs, le grand intérêt de l'ouvrage de Marie Favreau, c'est de montrer que normalement, on s'est habitué à considérer que l'État repose sur les villes, sur la civilisation écrite et sur une civilisation sédentaire. Et ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle montre comment on peut avoir un État et un pouvoir à grande échelle dans le monde de l'Horde d'Or, sur des pouvoirs qui sont nomades. Mais effectivement, il y a une forme de pouvoir impérial, de culture impériale chez les Mongols qui a des siècles et des siècles derrière elle, celle des peuples turcs avant même la conversion de l'islam, dans une interaction avec le monde chinois. Donc c'est une très longue histoire qui est passionnante. Et on retrouve tout ça dans les pratiques de pouvoir mongols. Or, les Arméniens, comme ils étaient au contact des Mongols, en commençant par l'oncle de notre historien, donc de Etoum l'historien, son oncle qui s'appelait aussi Etoum, qui était Etoum premier, qui était allé faire acte de soumission chez les Mongols, tout en présentant ça comme une alliance, mais une alliance forcée, mais qui aurait peut-être pu permettre de sauver l'Arménie-Cilicie grâce au soutien des Mongols. Etoum premier racontait à ses enfants, ses neveux, toute la famille, les histoires sur les Mongols, ce qu'il avait appris sur les Mongols, ce qu'il avait vu à la cour des Mongols et des Mongols de Perse. Notre historien Etou, mais lui aussi, est allé chez les Mongols. Il a vu les Mongols, donc il connaît ces Mongols, il connaît leurs pratiques, il sait comment ils fonctionnent. Et donc il peut mettre tout ça dans la grande histoire qu'il fait des Mongols dans cet ouvrage, La fleur des histoires de la Terre d'Orient.
Ils s'appellent tous Etoum. Tu mets Etoum qu'on les confonde après. Dites-nous, Thomas Tanaz, ce manuscrit, La fleur des histoires de la Terre d'Orient, est composé en 1307. Il est composé à Poitiers ?
Il est composé à Poitiers. Il est à Poitiers, il est dicté à Poitiers.
Dans quelle langue ?
Alors en fait, il y a deux langues. Etoum parle en français. Et il dicte le français. Et ça n'est pas étonnant. Le français, c'est d'abord la langue des croisades, c'est la langue des États latins d'Orient. Et puis, il faut se rappeler que le français est la langue dominante, en dehors du latin bien entendu, est la langue dominante en Europe au XIIIe siècle. D'abord, il y a l'hégémonie de la monarchie française, c'est le siècle de Saint-Louis. Saint-Louis avait réussi aussi à caser son frère Charles d'Anjou à la tête du royaume de Naples et de Sicile. En 1300, il y a même un petit-fils de Charles d'Anjou qui arrive à la tête du royaume de Hongrie. Donc on voit qu'il y a une sorte d'hégémonie française. Mais ce n'est pas simplement ça, c'est que le français, c'est la langue des romans de chevalerie. Au XIIIe siècle, par exemple, en Italie, on écrit en français. L'italien va beaucoup se développer au siècle suivant, au XIVe siècle. Mais par exemple, quand Saint François d'Assise aimait parler ou aimait faire des chants en français, Martin d'Acanal, qui écrit dans les années 1260-70, fait une chronique à la gloire de Venise, pleine de patriotisme vénitien, mais il l'a fait en français, alors qu'une cinquantaine d'années plus tard, il l'aurait fait en vénitien ou en italien. Donc le français est vraiment comme l'anglais d'aujourd'hui, c'est la langue qui permet de communiquer. Et Etoum, qui vient de ce royaume d'Arménie-Cilicie au contact des croisés, connaît le français, donc il peut communiquer en français. Mais on est à la cour du pape. Et la cour du pape, c'est le latin. Surtout qu'il y a tout un renouveau de la chancellerie pontificale au XIIIe siècle, tout un savoir du latin, donc on écrit un latin très correct, très châtié. Et donc quand Etoum dicte en français, et il fait composer un texte en français, mais il y a immédiatement une traduction simultanée qui est faite en latin. Et donc on a les deux textes, on a les deux versions en français et en latin. Et ce qui est intéressant avec la version en latin, c'est qu'on voit que c'est un vrai travail, c'est-à-dire qu'il y a un traducteur dont on nous donne le nom, qui est Nicolas Falcon, qui traduit à partir du français, mais il demande à Etoum, qui est certainement là, de préciser le texte. Donc parfois il interprète ce qu'on a dans le texte français, parfois il corrige ce qu'on a dans le texte français qui donne l'impression d'être un peu plus brouillon, donc il fait un texte plus poli, plus et surtout il le développe, c'est-à-dire que souvent les idées qui sont dans le texte français sont un peu plus développées dans le texte latin, c'est pas qu'il y a des parties supplémentaires, mais c'est que chaque idée, chaque paragraphe est un peu plus développé avec un peu plus de détails, et on voit ici que la traduction est aussi un travail d'interprétation.
Ces manuscrits, les a-t-on conservés ? Celui qu'Etoum offre au pape Clément V, l'avons-nous ?
Mais oui, on n'a pas le manuscrit original, mais on a beaucoup de manuscrits qui sont très proches dans le temps. Après, il y a tout un travail philologique justement, parce que l'édition du texte a été faite à la fin du XIXe siècle, et il y a certains travaux, mais on a des textes du début du XIVe siècle. On en a un qui est conservé, bien entendu, à la Bibliothèque municipale de Poitiers, on en a à Paris, à la Bibliothèque nationale de France, on en a à la Bibliothèque du Vatican. Donc oui, on a plusieurs manuscrits du début du XIVe siècle qui ne sont pas le manuscrit original, mais on a plusieurs versions. Et en français et en latin qui sont assez proches.
Avec cette traduction, il y a ici quelque chose d'intéressant de se dire que c'est un texte qui a pu être écrit en français et traduit en latin, alors que dans la logique, bien souvent, c'est de se dire que ce sont des textes en latin qui ensuite sont traduits en français pour être diffusés.
Oui, mais en même temps, comme on a quelqu'un qui vient d'Arménie-Cilicie, et même s'il a fait un séjour par un ordre monastique, par les Prémontrés, quelques années auparavant, c'est quelqu'un qui est essentiellement issu du monde chevaleresque, du monde aristocratique, et la langue de ce monde-là, c'est plutôt le français.
Voilà.
D'ailleurs, on a un autre exemple. Marco Polo, son récit est d'abord écrit en français, alors un français écrit par des Italiens, mais c'est du français, avant d'être traduit dans le latin ecclésiastique, et c'est avec le latin ecclésiastique que cet ouvrage sera le plus diffusé jusqu'à Christophe Colomb.
Oui, parce que c'est un ouvrage qui est très diffusé. Aujourd'hui, il est, j'ai envie de dire, redécouvert, parce que vous le présentez, Thomas Tanaz, c'est édité par Anacharsis, La fleur des histoires de la Terre d'Orient, parce qu'il y avait besoin de tout un appareil critique et surtout de présentation. Et c'est ce que vous nous offrez aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Merci vivement à vous. C'était un ouvrage qui a connu une vraie diffusion avant d'être oublié, ou il était tout de suite un petit peu en marge ?
Non, c'est un ouvrage qui a été vraiment diffusé de ce côté-là. Il y a une différence, par exemple, avec les premiers récits d'ambassadeurs chez les Mongols. J'ai parlé tout à l'heure de Jean de Plancarpin, de Guillaume de Rubroux, qui font vraiment des textes très précis sur les Mongols. Mais très rapidement, ils perdent de leur actualité. Ils n'existent plus que dans quelques manuscrits. Ici, on a un ouvrage qui a beaucoup de succès. Et en fait, pour comprendre pourquoi cet ouvrage a beaucoup de succès, c'est qu'il est écrit en 1307. Et la première moitié du XIVe siècle, c'est l'ouverture des routes de l'Eurasie au latin. D'ailleurs, exactement au moment où Etoum est à Poitiers, où il dicte son texte. Il y a une très grande nouvelle qui arrive à Poitiers, c'est vraiment au même moment, c'est en juillet 1307. On a appris qu'il y a un franciscain qui s'appelle Jean de Montecorvino qui est arrivé jusqu'à Pékin. Un franciscain qui avant était passé par l'Arménie Cilicie, qui avait été proche du roi Etoum II, du roi d'Arménie Cilicie, l'adversaire de notre prince, mais qui était un roi tellement proche des latins qu'il avait fini par rentrer dans l'ordre franciscain. Et donc ce franciscain est après été revenu à Rome, et puis on lui avait confié une mission, il était reparti en utilisant les liens de l'Arménie avec la Perse pour aller chez les Mongols de Perse et puis pour finir à Pékin. Donc en 1307, on apprend qu'il a fini par s'installer, qu'il a une église juste en face du palais du Grand Khan, et le pape Clément V crée un grand archevêché des Mongols sur toute leur Asie mongole, confié à ce franciscain. Donc il y a, après, pendant un demi-siècle, il y a des contacts. Les latins vont pouvoir investir les routes de leur Asie, s'installer dans des villes en Asie centrale, aller jusqu'en Chine. On sait qu'en 1307, il y a un frère qui s'appelle André de Pérouse qui est envoyé aider Jean de Montecorvino qui arrive jusqu'en Chine, qui s'installe dans le grand port chinois de l'époque qu'on connaît essentiellement par son nom musulman Zeitun, mais qui était le port de Quanzhou. On a retrouvé sa pierre tombale. On a une lettre qui est venue de Quanzhou d'André de Pérouse. Et ce que cet André de Pérouse écrit vers 1320, c'est que il a pu s'installer grâce à l'aide, et il a pu fonder son église grâce à l'aide que lui a fournie sur place une riche veuve arménienne. Et donc, vous voyez comment vos Arméniens circulent à travers tout l'Empire mongol. On les a en Cilicie, on les a en Arménie, bien entendu. On les a en Perse, où ils sont très présents, notamment dans la ville de Tabriz, qui est la capitale caucasienne de la Perse sous domination mongole. Mais on les a jusqu'en Chine. Et comme il y a cette circulation, les Occidentaux vont beaucoup s'intéresser à ces histoires d'Asie. Donc c'est pour ça que le récit de Marco Polo se diffuse, mais le récit de Etoum lui aussi. Et les deux souvent vont ensemble, c'est-à-dire que les mêmes manuscrits vont faire une compilation de textes. Donc ils vont mettre Marco Polo, ils vont mettre souvent un autre franciscain qui est allé jusqu'en Chine, qui s'appelait Odoric de Pordenon, et ils vont aussi mettre le texte d'Etoum. Donc ces trois textes se diffusent en même temps. On a un très beau manuscrit qui a été fait au début du XVe siècle, qui s'appelle le Livre des Merveilles, qui a été fait par Jean sans peur, le prince bourguignon, dans lequel, par exemple, on a... En fait, c'est amusant, en 1351, il y a un moine qui s'appelle Jean Lelong, qui a retraduit le texte latin en français. Donc on avait un texte français traduit en latin, retraduit en français, et qui se trouve dans ce Livre des Merveilles. En fait, Jean Lelong avait fait cette compilation qui a eu beaucoup de succès, Marco Polo et Etoum qui vont ensemble. Donc l'ouvrage se diffuse, il est encore connu au XVIe siècle par Rabelais, il est connu par les historiens qui travaillent sur les Mongols au début du XVIIe siècle, par exemple Pierre Bergeron. Donc non, c'est un ouvrage qui se diffuse.
Bon, celui qui a gagné dans cette bataille de mémoire, faut le dire, c'est quand même Marco Polo.
On sait que depuis les temps très anciens, un arbre, au milieu d'un désert, a toujours été le symbole d'un espace infranchissable, comme une borne donnée à l'autorisation d'aller au-delà. Au temps de Marco Polo, on plaçait cet arbre dans le désert du Khorasan, qui est limitrophe de ce qu'est l'Afghanistan aujourd'hui. On peut dire, sans trop se tromper, que c'est entre Meshed et Herat, ou entre Nishapur et Herat. Et effectivement, cet arbre que décrit Marco Polo, c'est une sorte de platane, se dressait seul, au milieu d'un désert, et pendant des siècles, cet arbre a marqué la limite autorisée de l'univers. Cet arbre est devenu l'emblème de ce qu'est la liberté de penser et de ce qu'est la tolérance face aux interdits et à l'intolérance. Marco Polo, d'ailleurs, l'avait décrite, cette légende, et l'avait allègrement franchi. Il avait passé le seuil de cet arbre et il l'avait simplement noté dans son devisement du monde. On sait à quel point il l'a payé cher plus tard, puisque quand il est revenu, après toutes ces années passées de l'autre côté, du côté de l'interdit, personne n'a voulu le croire. Tout le monde a cru à des fables, parce que dans l'idée de tout le monde, c'était pas licite de ramener quelque chose d'un monde qui n'était pas censé exister.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
André Velter, écrivain, essayiste, à propos de Marco Polo sur France Culture en 1989. Thomas Tanaz, Etoum a-t-il lu Marco Polo ?
Pas forcément, les deux sont presque contemporains. Marco Polo écrit un peu plus tôt. C'est vrai qu'il y a des passages dans le texte de Etoum où on peut se poser la question de savoir s'il ne répond pas à Marco Polo ou s'il ne l'a pas lu, mais il n'y a absolument aucune certitude là-dessus. C'est d'ailleurs une question qu'on se pose avec tous les textes de voyageurs du Moyen-Âge. Chacun d'entre eux se présente comme un texte absolu fait par un récit de voyageurs, et parfois ils se font écho, donc on peut se poser la question. La même question se pose par exemple pour ce franciscain qui est allé en Chine, dont j'ai parlé, Audoric de Pordenone. En principe, il n'a pas lu Marco Polo, mais il y a quand même beaucoup de passages où on se dit, tiens, il a dû le lire et il re-raconte à travers ça. Mais en fait, c'est assez logique. D'ailleurs, chacun peut l'appliquer à son expérience. Quand on est un voyageur, on n'arrive jamais en terre vierge. On a toujours des idées ou des choses que l'on a lues, que l'on a entendues. Et donc, même peut-être parfois inconsciemment, ça peut ressortir. Donc, c'est possible que Etoum ait entendu parler des textes de Marco Polo qui commençaient à circuler à cette époque-là.
Il est en 1307 à Poitiers, Etoum, quand il écrit « La fleur des histoires de la terre d'Orient ». Mais quelles sont ses sources? Parce que je ne sais pas si la bibliothèque de Poitiers en 1307 contenait tous les ouvrages nécessaires pour écrire une histoire des peuples d'Asie, mais il la raconte.
Oui, encore que je vous rappelle qu'en 1307 à Poitiers, on a oublié de dire tout à l'heure que parmi tous les gens qui se trouvaient à Poitiers, il y avait aussi une ambassade du Khan mongol de Perse qui tentait de relancer cette alliance et qui se trouvait là en même temps que Etoum. Et en fait, ses sources, elles sont très diverses. Alors, lui, il dit qu'il s'appuie sur les histoires orientales, donc sur beaucoup de choses. Certainement, il y a tout ce qu'il a entendu à la cour arménienne de Cilicie, c'est sa source principale. Il connaît les sources occidentales, je viens de dire qu'il a fait une traduction d'une chronique historique franque, donc il a aussi cette culture-là. Et après, il dit qu'il a consulté des documents mongols. Là, c'est un peu plus incertain. Les documents mongols, il y avait dans les cours mongols des documents secrets qui étaient gardés. Mais en général, il ne laissait pas trop l'accès à ces documents. On sait que, par exemple, contemporain de Etoum, il y a le ministre du pouvoir mongol de Perse qui s'appelle Rachid ad-Din, qui fait composer une grande histoire universelle qui est très, très intéressante. Alors, il a un informateur mongol de Chine pour faire une histoire des Mongols de Chine. Il a un moine cachemiri qui vient pour faire une histoire du monde indien. Il a toute une partie sur l'histoire des Francs, l'histoire des Occidentaux, où il recopie en fait une chronique dominicaine qui avait eu beaucoup de succès à l'époque. Et on se pose la question comment il en est arrivé à recopier traduire, bien entendu en persan, cette chronique. Et on se dit qu'il y a un intermédiaire arménien qui est probablement passé par là, qui se trouvait à la cour de Tabriz. Et les historiens ont longtemps pensé qu'il avait accès aux sources les plus secrètes des Mongols, puisqu'il était ministre quand même des Khans mongols. Et en fait, les études les plus récentes tendent à penser que non. Mais comme il était dans cette position, il avait beaucoup d'informateurs, il y avait beaucoup d'histoires qui circulaient, donc il était au courant de tout ça. Et probablement que Etoum, à travers le fait qu'il est de famille royale, qu'il est au contact de ce monde, qu'il a été un peu en Perse, qu'il a rencontré même, en tout cas il a été à la cour des Khans mongols, probablement que lui aussi a entendu beaucoup de ces histoires, et qu'après il les réutilise dans son ouvrage, et on voit même des traces d'informations orales ou de récits, parfois même de récits légendaires qui circulaient dans ces mondes-là, que l'on retrouve dans l'ouvrage de Etoum.
Thomas Tanase, vous êtes maître de conférence en histoire à l'Université Paris, à Panthéon-Sorbonne. Vous avez traduit du latin et présenté cet ouvrage « La fleur des histoires de la terre d'Orient » publié par Anacharsis. Et l'historien que vous êtes, quand il regarde ce document, bien sûr, va trouver 1000 choses à étudier. Est-ce que la vision qu'a Etoum de ces territoires lointains en Asie est complètement délirante? Est-ce que c'est un récit qui touche au fantastique, comme parfois Marco Polo peut toucher un peu au fantastique, ou est-ce que c'est du solide?
Ce n'est pas fantastique, il n'a pas tellement de traits fantastiques. Il y a quelques traits sur lesquels je veux revenir. D'ailleurs, ce que je vais dire sur Etoum est aussi globalement valable sur Marco Polo, qui n'est pas si fantastique que cela. D'ailleurs, par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure, si Marco Polo a eu une diffusion, c'est parce que ses contemporains ont cru. Marco Polo, il savait qu'il apportait des informations. Simplement, il ne faut pas oublier là encore que nos auteurs s'inscrivent dans une tradition littéraire et que cette tradition littéraire un peu chevaleresque a des mythes sur l'Asie. Donc parfois, ils doivent y faire des clins d'œil. Je pense à Marco Polo, notamment sur la Perse. La Perse est une terre de mythes, donc on doit les replacer. Sur Etoum, beaucoup moins. En fait, ce qui est intéressant avec Etoum, c'est qu'il n'utilise pas ces mythes qui font partie de la tradition littéraire occidentale. En échange, parfois, il utilise une tradition qui circulait chez les Mongols, mais là, il faut revenir un peu en arrière. Les fameux mythes du Moyen-Âge ne sont pas du tout médiévaux. Ils viennent de l'Antiquité. Les auteurs grecs de l'Antiquité étaient pleins de mythes géographiques. Et ces mythes ont été compilés à la fin de l'Antiquité dans un ouvrage qui s'appelait le Roman d'Alexandre, qui a eu beaucoup de succès. dans le monde occidental, mais dans le monde grec, et ces mythes, on les retrouve chez les Byzantins, et aussi dans le monde musulman, et ces mythes, on les retrouve dans le monde musulman. L'un des plus courants, c'était le mythe des peuples enfermés par Alexandre le Grand. Alexandre le Grand aurait fait construire des grandes murailles où il aurait fait enfermer les peuples de la fin des temps, des murailles, d'après description, on comprend qu'elles sont dans la région caucasienne. Et puis ces mythes ont tellement circulé à travers le monde musulman que d'abord les Occidentaux les reprennent au XIIe siècle, quand ils entrent en contact avec le monde musulman. Quand on voit réapparaître ces mythes dans la littérature occidentale, c'est pas que les hommes du Moyen-Âge étaient crédules et c'était des mythes intemporels, mais c'est au contraire le signe d'une réouverture géographique et du contact avec le monde musulman ou le monde byzantin. Mais après, ces mythes ont tellement circulé à travers le monde musulman qu'on les retrouve dans les peuples turcs. Les peuples enfermés sous les murailles, ça donne la fameuse légende chez les peuples turcs, le mythe d'origine de l'Ergenekon, d'où sont issus les peuples turcs. On les retrouve dans le monde mongol. D'ailleurs, on a même une traduction du XIVe siècle ou un extrait du roman d'Alexandre en mongol. Et donc, on les retrouve chez les Mongols, et où ils se sont brassés. Et après, on les retrouve chez nos auteurs occidentaux qui ont été en contact avec les Mongols. On les retrouve un peu chez Jean de Plancarpin. Et on les retrouve chez Etoum. Et on voit bien dans la manière dont Etoum reprend ses récits qu'en fait, il les a entendus chez les Mongols et qu'il a repris la version mongole transformée. D'ailleurs, il les scinde en deux. Il y en a une partie sur le Caucase, lieu traditionnel des murailles d'Alexandre, mais après il va aussi replacer ses mythes plus loin en Asie sur un autre passage où il va raconter le mythe d'origine des Mongols, qui est en fait le même mythe que celui de l'Ergenekon, d'ancêtres qui auraient été enfermés dans une terre d'où ils se sont échappés. Et d'ailleurs ces mythes, cette manière de présenter l'origine des Mongols, on la trouve à la même époque chez ce Rachid ad-Din, ministre du Khan mongol de Perse dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on voit bien que c'est un fond commun qui circule et que Etoum a repris aux Mongols.
Etoum a pioché dans tout ce qu'il a entendu, et c'est très important de se dire que cet homme-là a été présent, que ce soit auprès des Mongols, que ce soit évidemment en Arménie et que ce soit à Poitiers, et il a produit cette fleur, la fleur des histoires de la Terre d'Orient.
Ainsi, je supplie et je prie humblement votre révérendissime sainteté de bien vouloir recevoir avec bienveillance ce que ma dévotion a écrit sur le passage en Terre Sainte. Je n'aurais en effet pas eu l'audace de donner mon avis sur une question aussi épineuse si votre révérendissime paternité ne me l'avait ordonnée, laquelle, après être montée sur le trône pastoral par la volonté de Dieu, n'a cessé de penser avec angoisse et de tout l'affect de son esprit à la question de savoir comment libérer de sa servitude aux mains des infidèles la sainte ville de Jérusalem, baignée du précieux sang du Christ, et comment la ramener à son ancienne liberté. Ainsi finit l'histoire des terres d'Orient, écrite par le frère Etoum, de l'ordre du bienheureux Augustin, parent du roi d'Arménie. Récit composé sur l'ordre du pontife suprême, le seigneur Clément V, dans la ville de Poitiers du royaume de France.
Raphaël Laloum qui disait un extrait de La fleur des histoires de la Terre d'Orient. Thomas Tanaz, il y a un vrai projet politique. C'est surtout ça qui est fascinant. C'est comme si l'ouvrage était construit comme une immense démonstration pour arriver à une conclusion qui serait de convaincre le pape de s'allier aux Mongols pour lutter contre les Mamelouks. En fait, c'est remettre en avant l'idée de croisade.
Mais en fait, l'idée de croisade n'a jamais disparu. Elle est encore plus présente dans ces années-là, justement parce que la ville d'Acre a été prise. Tant qu'il y avait un peu d'État croisé en Orient, il y avait l'idée de les aider. Mais à partir du moment où ils disparaissent, il y a une sorte de réveil avec l'idée d'aller reprendre ce qui avait appartenu aux Latins en Orient. C'est pour ça qu'il y a toute une floraison de traités de croisade et Etoum s'inscrit dans cette tradition. C'est pour ça que je disais que le pape Clément V se dit que la meilleure manière de réunir la chrétienté, de dépasser les disputes qui avaient existé, c'est de faire une croisade. Et donc Etoum s'inscrit dans tous ces débats, qui se croisent aussi d'ailleurs avec l'histoire des hospitaliers, des templiers. À l'époque, le grand débat, c'est de se poser la question, si on fait une croisade, comment on la fait? Est-ce qu'on fait ce qu'on appelle un grand passage, c'est-à-dire on attaque directement l'Égypte et on débarque directement en Égypte, l'Égypte étant la grande puissance, étant la clé. Si vous battez l'Égypte, vous prenez le contrôle de la région et de Jérusalem, ce qu'avait essayé de faire Saint-Louis. Et sinon, il y a l'idée de ce qu'on appelle le petit passage, qui est, faisons d'abord un débarquement plus localisé, un peu plus loin, pour consolider une tête de pont qui permettrait ensuite d'attaquer l'Égypte. Évidemment, Etoum, lui, va proposer qu'on fasse la tête de pont en Arménie-Cilicie. Comme ça, croisade, pas croisade, Égypte, pas Égypte, au moins ça permettra de défendre l'Arménie-Cilicie. Exactement la même année, Clément V demande des traités de croisade. Il en demanda au maître des hospitaliers, Foulque de Villaret. Il en demanda aussi au grand maître des Templiers, Jacques de Molay. On est à l'époque où ces ordres sont de plus en plus contestés parce qu'ils ont perdu la Terre Sainte, où on parle de fusionner ces ordres. Et là, Jacques de Molay n'est pas très habile. D'abord, il dit qu'il n'y a aucune question de fusionner son ordre et que les Templiers se débrouillent très bien tout seuls. Et puis ensuite, Jacques de Molay était plus réaliste et il avait eu lui aussi une expérience des alliances avec les Mongols qui ne donnaient jamais de résultats. Donc il dit que le petit passage ne sert à rien et qu'il faut aller débarquer directement en Égypte. Sauf que Clément V, lui, était plutôt pour l'idée d'un petit passage et d'un premier débarquement. Donc Jacques de Molay dit en gros que toutes les idées du pape sont à revoir. Là où Foulque de Villaret va aller dans le sens du pape, va lui dire qu'un premier passage c'est très bien. Puis il va dire, d'ailleurs, mes armées ont déjà commencé à débarquer dans l'île de Rhodes, qui appartient aux Byzantins, mais c'est pas grave, ou dont on pourrait faire une tête de pont. Et puis finalement, il va réussir à obtenir de la part de Clément V un soutien pour créer un état hospitalier sur l'île de Rhodes et faire ce premier passage, qui après ne donnera pas de croisade générale, mais l'île de Rhodes va rester au contrôle des, sous le contrôle des hospitaliers. Tandis que les Templiers, qui sont de plus en plus contestés à ce moment-là, finalement avec cette attitude de Jacques de Molay, ben cet entêtement va mal se finir, puisque Philippe le Bel en profite, et comme chacun le sait, un peu plus tard dans l'année, le 13 octobre 1307, Philippe le Bel fait arrêter tous les Templiers du Royaume de France.
Vous avez présenté les acteurs, Thomas Thanase. Ils sont tous là. Il y a les Templiers, il y a Philippe le Bel, il y a Guillaume de Nogaret. On pourrait rajouter Mahaut d'Artois et nous avons les Rois Maudits.
Que n'avez-vous fait exécuter vos brus, sire? Deux, tout au moins.
Pour m'aliéner les deux Bourgognes. La succession au trône est certes chose importante, mais rien ne l'est davantage que l'unité du royaume.
Sans nul doute, sire.
Mais sire Guillaume, vous allez vous rendre auprès du pape Clément. Vous lui représenterez qu'une union de rois n'est pas une union d'hommes ordinaires.
J'y emploierai mon zèle, sire. Mais ne doutez pas que la duchesse de Bourgogne mette tout en œuvre pour nous faire obstacle auprès du Saint-Père.
Le Saint-Père nous doit tout. Et d'abord sa tiare. Le moment est venu qu'il s'en souvienne.
Satanée duchesse de Bourgogne, c'est un extrait des Rois Maudits, Thomas Thanase. Le pape Clément V est très proche du roi Philippe le Bel. Mais comment est reçu ce projet proposé par Atoum, cet historien arménien, moine, dans la fleur des histoires de la Terre d'Orient? Est-ce que l'idée plaît?
Finalement, l'ouvrage est reçu, il va être diffusé, il va être utilisé plus comme une somme d'informations sur les Mongols que pour son projet de croisade à proprement parler. La difficulté à l'époque, c'est que oui, Clément V voudrait une croisade. Philippe le Bel promet une croisade, mais il n'a pas particulièrement envie de partir en croisade. Philippe le Bel a toute sa vie suivi le modèle de son grand-père de Saint-Louis, sauf sous le point de la croisade où il sait très bien que c'est beaucoup d'argent, beaucoup de risques pour un résultat à l'arrivée, on va dire aléatoire. Et donc, comme il n'y a pas de croisade qui va se faire, comme finalement le projet qui sera suivi, ça sera le projet des hospitaliers d'aller prendre Rhodes, et puis après, on verra, le projet de croisade en lui-même de Etoum aura assez peu d'influence. Mais ce qui compte, ce qui reste, c'est l'ouvrage et c'est sa description des Mongols qui, elle, ne va cesser de circuler.
Etoum devient quoi après 1307, après son passage à Poitiers?
Alors, ici, il faut faire un retour en arrière. Quand je dis que c'est un personnage qui a, comment dire, une longue histoire et qui était aussi un bon comploteur politique, j'étais resté sur l'idée qu'il avait eu un problème avec son parent qui était le roi Etoum II. Finalement, il quitte l'Arménie Cilicie. Dans son récit, il nous dit qu'après une grande victoire sur les Mamelouks, il décide d'entrer dans les ordres parce qu'il a accompli sa vocation guerrière et que le moment est venu d'entrer dans les ordres. Il se retire à Chypre, où il y avait un parent, le roi Henri II de la dynastie des Lusignans, où il est accueilli et où il se retire dans l'ordre monastique des Prémontrés. Sauf qu'il arrive, et puis l'année suivante, en 1306, Henri II est renversé par son frère, par son jeune frère qui s'appelle Amaury, et qui on trouve dans l'ordre, et Henri II qui était très proche d'Etoum II, et qui on retrouve dans l'entourage d'Amaury, on retrouve notre historien Etoum. Et c'est pour ça, en fait, qu'il arrive à la Poitiers. Amaury l'envoie à Poitiers pour l'encourager, pour que Etoum plaide sa cause auprès du pape Clément V. Finalement, de ce côté-là, il n'a pas beaucoup de succès. Il revient à Chypre, il revient en Arménie-Cilicie, mais entre-temps, Etoum II a été assassiné par un chef mongol. Il y a un nouveau souverain qui arrive, qui s'appelle Oshin. Et du coup, notre moine qui avait renoncé au monde revient en Arménie-Cilicie et il devient le nouveau connétable de ce roi, qui était proche d'Amaury. Donc on voit toujours comment Etoum circule entre ces différents souverains. Et il devient tellement son connétable qu'il réussit à marier sa fille avec le nouveau roi. Et donc il meurt bien en cour et bien revenu dans les affaires de ce monde en 1316.
Nous nous trouvons dans l'Arménie médiévale. un chant du XIIIe siècle, Orzam, chanté par l'usine Zakarian dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique Élise Le. Thomas Tanase, La fleur des histoires de la Terre d'Orient. L'ouvrage a connu une belle postérité, vous l'avez cité, il est connu de Rabelais notamment. Comment expliquez-vous qu'il ait été oublié, en tout cas qu'il n'ait pas eu le même succès que les descriptions de Marco Polo ?
En fait, l'ouvrage est complémentaire de Marco Polo, mais Marco Polo est centré sur la Chine et il décrit la Chine sous domination mongole. Donc pas exactement les Chinois, mais le monde chinois sous domination mongole. Quand il parle des Mongols de Mongolie, il est beaucoup plus sommaire et beaucoup moins intéressant en fait. Et Thum, lui, parle des Mongols et en fait, la Chine, très peu. L'essentiel, c'est les Mongols. Or, ce qui se passe, c'est qu'à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, le monde occidental s'intéresse de nouveau beaucoup à la Chine. Au XVIIe siècle, les jésuites s'installent en Chine et ils sont des grands lecteurs de Marco Polo. Et puis, héritage de cette Chine jésuite du XVIIe siècle, les Lumières au XVIIIe siècle s'intéressent aussi beaucoup aux Chinois, le peuple des philosophes, et donc Marco Polo passe à la postérité. En échange, les Lumières sont beaucoup moins intéressées par les Mongols. Les Lumières ont cette idée qu'il y a la civilisation, puis il y a ce qui est en dehors de la civilisation qui n'est pas intéressant. Donc, les peuples des Mongols, les peuples des steppes, les peuples nomades, c'est un exemple de sauvagerie, de brutalité qui n'a aucun intérêt. L'histoire de ces peuples n'a aucun intérêt. Donc l'histoire que raconte Etoum, qui est centrée sur les Mongols, perd de son intérêt. Et du coup l'ouvrage cesse de circuler et après ne sera plus connu que des érudits ou des spécialistes de la question.
Et pourtant, Etoum avait compris l'urgence d'une action pour sauver l'Arménie cilicie parce qu'il écrit en 1307 et c'est à la fin du siècle, dans les années 1370, que pour l'Arménie cilicie, l'histoire change complètement et ce sont les Mamelouks qui l'emportent.
Le problème, c'est qu'il n'y aura pas eu de croisade. Et en fait, l'Arménie cilicie attendait une aide d'Occident qui n'est jamais venue. Les Mongols se servaient de l'Arménie cilicie, mais n'avaient pas de motivation particulière à la défendre non plus. Puis de toute manière, le pouvoir mongol va s'effondrer à partir des années 1330. Et ce qui va prendre la place, c'est un ensemble de sultanats qui vont donner naissance aussi au sultanat ottoman après, et à ce monde turc-là. Donc finalement, l'Arménie cilicie, laissée à elle-même, dès les années 1320, passe sous le contrôle des Mamelouks, devient un petit territoire sous tribu et sous contrôle des Mamelouks qui vont progressivement en prendre un morceau après l'autre jusqu'à la fin, la toute fin, quand les derniers restes sont éliminés en 1375. Reste des Arméniens dans la région qui vont rester jusqu'en 1915, jusqu'au génocide, mais le royaume d'Arménie-Cilicie est éliminé.
Est-ce que la fleur des histoires de la Terre d'Orient est un peu plus connue dans la culture arménienne ? Est-ce que là, on sent une différence entre ce que nous en avons retenu ? Vous avez bien expliqué pourquoi Thomas Tanase, il a moins de succès que Marco Polo. Est-ce que pour les Arméniens, c'est différent ?
Il y a toute une transmission de la mémoire arménienne et de l'histoire arménienne qui s'est faite par les Arméniens. Et effectivement, les historiens arméniens se sont intéressés à cet ouvrage au 19e, au 20e siècle. Donc il y a un souvenir de cet ouvrage et un souvenir de Etoum qui est resté dans l'historiographie arménienne. Y compris d'ailleurs, celui qui a beaucoup travaillé sur l'Arménie-Cilicie, qui a beaucoup travaillé sur les Arméniens de Cilicie, qui a beaucoup travaillé sur Etoum, en fait, les éléments de biographie que je donne sur Etoum, c'est à lui que je les dois, que je reprends très largement, c'est un Français d'origine arménienne, Claude Mutafian, qui est le grand expert de l'Arménie-Cilicie.
Voilà, parce que c'est cette histoire-là qui n'est pas une histoire locale. C'est assez sidérant à vous écouter, Thomas Tanase, de voir qu'on a réussi plusieurs fois aujourd'hui, en une heure, à traverser le monde, de passer de Poitiers jusqu'en Chine, mais toujours ce carrefour qu'était l'Arménie-Cilicie, parce qu'il y a ce regard porté par cet homme, Etoum, qui propose la fleur des histoires de la Terre d'Orient que vous avez présenté et traduit chez Anacharsis. Merci beaucoup à vous d'avoir présenté cette histoire qui, d'un premier temps, est sublime, puis complexe quand on veut la replacer dans le contexte, mais tu viens absolument éclairante quand vous nous la présentez. Merci beaucoup. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Comment le préjugé de couleur fut-il exploité par les petits blancs de Saint-Domingue pour défendre leur cause ? En 1789, lorsqu'éclata la Révolution française, le commerce colonial était à son apogée. Il était alimenté par l'exportation vers l'Europe de denrées comme le sucre, le café, le coton, les épices, qui représentaient en valeur 38% des importations du Royaume de France. Cette prospérité provoqua de profondes transformations au sein des sociétés coloniales,
notamment à Saint-Domingue, qui était l'île la plus peuplée et la plus prospère des Antilles françaises. À la fin du XVIIIe siècle, les esclaves représentaient 90% de sa population. Ceux qui échappaient à cette condition servile formaient un ensemble très hétérogène. Au sein du groupe d'origine européenne, il existait un clivage de classe opposant le petit nombre des riches planteurs et la masse des petits blancs, tailleurs, bouchers, perruquiers ou marchands, généralement installés sur l'île depuis peu. Issus de la population d'origine africaine, une petite minorité composée d'esclaves affranchis et de leurs descendants, qu'on appelait les mulâtres, s'était formée. Le fort développement économique de l'île explique qu'à la fin du XVIIIe siècle, une partie d'entre eux avait atteint un statut social plus élevé que celui des petits blancs. On estime que les libres de couleur possédaient environ 20% des esclaves de Saint-Domingue. Ils se heurtaient toutefois à de nombreuses discriminations en raison de leur origine. Écartés de certaines fonctions et de certains métiers, les libres de couleur ne furent pas considérés comme des citoyens à part entière au début de la Révolution française. Ils se mobilisèrent alors contre ce qu'on appelait à cette époque le préjugé de couleur, au nom des grands principes énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toutefois, comme ils étaient eux-mêmes propriétaires d'une main-d'œuvre servile, ils n'apportèrent pas d'emblée leur soutien aux révoltes des esclaves qui réclamaient leur liberté. En mai 1791, l'Assemblée nationale ayant accordé le droit de vote à certains libres de couleur, cette mesure provoqua la fureur des petits blancs, car, comme il s'agissait alors d'un régime censitaire, les Français de conditions modestes, dont ils faisaient partie, étaient privés du droit de vote. Cette discrimination socio-économique eut pour effet de rapprocher les petits blancs et les riches planteurs qui espéraient proclamer l'indépendance de Saint-Domingue comme les colons anglais l'avaient fait peu de temps auparavant aux États-Unis. Mais les négociants blancs, qui bénéficiaient des mesures de protection douanière mises en place par le pouvoir royal, s'opposèrent fermement à ces entreprises sécessionnistes en proclamant leur fidélité à la monarchie et en soutenant les revendications des libres de couleur. Affranchis, mulâtres, négociants et planteurs blancs commencèrent alors à s'affronter, n'hésitant pas à associer les esclaves à leurs querelles et à leur confier des armes. Comme ce fut souvent le cas dans l'histoire, les conflits opposant les dominants entre eux purent être mis à profit par les dominés. À Saint-Domingue, le soulèvement général des esclaves aboutit à la suppression de l'esclavage le 29 août 1793.
Merci beaucoup Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par la fleur des équipes qui préparent les émissions. Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Fudès, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel et à la discothèque de Radio France. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster l'émission d'aujourd'hui, mais également toutes les archives sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.